Trends Periodical.
Alors salut Fauda, salut Judy. Très heureux de vous recevoir pour une première fois sur Trends.
Merci.
On se retrouve là à l'occasion de la réédition de votre projet Adieu bientôt, qui devient Adieu au revoir.
Au revoir.
Comment vous sentez à l'approche de la sortie de votre projet?
Confiant et content. C'est toujours cool de sortir un projet, ça fait du neuf. On a hâte en fait, on se lasse vite.
Vous lassez vite, c'est vrai que vous êtes quand même assez actif,
ouais.
Très productif. Là vous revenez d'un concert à La Réunion, c'est ça?
Ouais.
Comment vous arrivez à être autant prolifique?
Bah, on a une très bonne équipe qui nous organise notre
calendrier,
puis nous qui suivons pour dire ok, on y va quoi, tu vois.
Ouais, et puis on s'est pas fait trop bouffer par les moments de tournée. En fait, là où on avait deux dates par semaine, le reste de la semaine on l'utilisait pour faire des nouveaux sons. Et on n'était pas sûr de pouvoir faire une réédition aussi complète, mais en fait il s'est avéré qu'on a eu plein de sons en stock au bon moment, et du coup c'était carré quoi.
Ouais, on est très fiers de ce qu'on a produit, c'est des nouvelles, un nouveau travail sur la voix, un nouveau mix. Pour nous on passe encore une étape dans le son et ça monte la couleur de ce qui peut arriver encore après quoi.
Ouais, c'est un nouveau projet quoi, vraiment.
Donc c'était des sons en fait que vous aviez en stock, c'est ça?
En fait, les trois quarts ont été faits après la sortie d'Adieu bientôt.
Okay.
Tu vois, pendant la période de tournée, ce que je te disais. Il y en a deux qui ont été gardés, qui étaient faits pendant l'album, qu'on n'avait juste pas gardé pour l'album. Mais avec du recul et un nouveau mix et tout, on les a incorporés. Il y a même eu du réenregistrement et tout, du coup.
C'est pas des chutes, tu sais, des sons poubelles, ouais. Quoi. C'est vraiment genre l'étape d'après et ça vient terminer le tout, quoi. C'est un peu genre le boss final, finalement. Tu vois.
Okay.
Ouais, c'est une continuité, en fait. Qu'on va intégrer à notre set actuel de concert aussi, tu vois, ça
okay.
Fait vraiment, ça renouvelle et c'est à la cool.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu c'est quoi l'histoire du collectif Columbine?
C'est l'histoire de sept potes du lycée qui finissent par bosser ensemble après plusieurs années d'amitié.
Ouais.
Et on s'est tous retrouvés autour de la musique et de la vidéo, mais aussi de la connerie parce qu'on faisait les cons ensemble et... C'est surtout ça qui nous a liés au début et qu'après on vivait des soirées incroyables ensemble et du coup on a fini par créer le groupe. Et voilà, aujourd'hui après le groupe il s'est vachement divisé, éclaté, tout le monde a ses projets et tout et nous on a fait notre projet à deux et c'est Columbine.
Ouais, ça c'est aussi bien, Columbine c'est aussi bien le nom de notre duo que le nom du collectif et ça c'est une équipe quoi, une bande de potes.
Donc ouais, aujourd'hui vous êtes les figures de proue en fait du collectif,
bah,
où sont passés les autres?
Non, plus personne n'a vraiment son rôle dans notre travail à nous deux, c'est plus que chacun développe ses propres atouts quoi. Il y a des gars dans le design, on a Chaps qui fait notre scénographie, on a Shaman et Sully qui sont sur scène avec nous mais qui à côté travaillent sur leur premier album pour exister autrement qu'en tant que backer aussi, tu vois. Et si tu prends plus anciennement, il y avait Lorenzo qui a commencé avec nous et tout, donc c'est vraiment ça. Mais quand on parle de Columbine actuellement, on parle de nous deux parce que c'est nous qui faisons la musique depuis trois projets, tu vois.
Juste nous on a choisi de mettre en avant les gens qui travaillent dans l'ombre parce que notamment c'est des proches et que même nos beatmakers, trois quarts des beatmakers, c'est des gens qu'on a porté aussi avec nous et qui sont là depuis les débuts. Un gars comme Skuna qui aujourd'hui a 4 sons sur 10 là, dans la réédition, lui on l'a vu grandir et voilà, ça reste à... On le met en avant dans les clips et tout, on a envie d'avoir cette mythologie autour de nous. Et...
C'est un gars qu'on produit aussi, Skuna, maintenant. On a monté notre label et on a signé notre pote, tu vois. Et...
On l'aimait bien, ça, tu vois, pour montrer que c'est la maison.
Ouais, de ouf. C'est bien, bon enfant.
Et comment vous en êtes venu à créer votre duo?
Bah naturellement, je pense que c'était des questions de niveau au bon moment quoi. Je pense qu'on était les deux plus investis et les deux plus capables de faire ça. Et comme on dit, maintenant les gars commencent à prendre du galon et à pouvoir monter leur propre truc. Après nous, ça a toujours été évident qu'on était les plus aptes à faire un album. Faut être prêt en fait à faire un album.
Les deux vrais passionnés de rap.
Ouais, ouais. Voilà, on était les deux plus investis. C'est toujours nous qui placions le plus de prod sur les premiers projets. Les premiers projets, il y avait un peu plus d'intervention de tout le monde. Mais au moment de la sortie de l'album Enfant Terrible, on s'est dit bon, on le fait à deux et on fait la direction artistique vraiment à deux. Et c'est comme ça, il y avait besoin de cadrer un peu les choses pour pas que ça parte dans tous les sens n'importe comment. Et ça s'est bien fait comme ça quoi.
Et comment vous avez venu la passion pour le rap, pour la musique?
D'abord par la production. Tous les deux à la base on fait des instrus depuis qu'on est jeune quoi, à la période collège, début lycée, tu vois. Et voilà, à force d'en écouter, Fauda il avait commencé à écrire et puis à peu près un an après moi j'ai suivi et ça s'est monté petit à petit autour du collectif. Je sais pas, en 2014 quoi, qu'on s'est dit officiellement maintenant on écrit et on se lance dans tout ça quoi.
Je pense que écrire au début c'est plus compliqué en fait. C'est qu'on a toujours envie de faire du rap ou de la musique, mais je pense que au début tu rappes presque pour rien dire, tu vois. On faisait des freestyles, des impros, ça ressemble à rien. Et à bout d'un moment tu commences à avoir des choses à dire et c'est là où tu te dis ah j'ai peut-être quelque chose à apporter.
Comment vous avez mis en place justement vos processus d'écriture? Comment vous avez réussi un petit peu à vous dévoiler? C'est un peu se mettre à nu finalement d'écrire. Comment vous êtes parvenu à faire ça?
Au début on était un peu perdu quand on commençait. En fait on cherchait peut-être plus à créer un peu des personnages. Donc on écrivait en se donnant beaucoup de thématiques, en mode ce son il traitera de ça, donc il faut se mettre dans cet état d'esprit. Et au fil du temps on a vu aussi que ce qui était le plus évident à faire et qui nous plaisait le plus, c'était de partir dans quelque chose de plus introspectif et plus perso. Et du coup c'est ça en fait, naturellement, tu vois, en commençant, en se donnant un rôle, on a fini par se dire que c'était plus simple de rester nous-mêmes et d'écrire. Et là où avant on mettait beaucoup de temps pour écrire des morceaux, là maintenant on arrive à faire des morceaux en une heure, deux heures, parce qu'on prend du niveau petit à petit, quoi.
Bon, c'est une question d'expérience et c'est aussi une question d'époque. Ce qu'on faisait il y a 4 ans en termes de musique, ça n'a rien à voir à ce qu'on faisait aujourd'hui. Parce que le son il évolue, on écoute des trucs différents, on prend du niveau et après on a toujours eu cette patte en mode à chaque fois qu'on fait un son et on veut qu'il soit unique, on veut qu'il apporte quelque chose à l'édifice, tu vois. On a cette réédition, c'est vraiment genre on a fait plein de petits sons, mais ceux qu'on a voulu sortir, c'est ceux qui je pense apportaient une nouvelle facette de Columbine, tu vois. Pour se dire on peut faire un son comme ça, on peut tenter de faire un hit comme ça, tu vois, c'est des tentatives et en même temps tu commences des sons, des fois tu t'amuses, tu penses que c'est une blague et au final à la fin t'en fais un son sérieux, tu vois, et c'est ça, c'est toujours été ça Columbine, c'est genre des défis et au final qui ont reçu des sons sincères, quoi.
Alors comme je disais tout à l'heure, vous revenez d'un concert à La Réunion, vous allez aussi attaquer une tournée, vous allez notamment faire les Zéniths d'ici le 11 avril,
ouais.
C'est ça? Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer entre la scène et le studio? Qu'est-ce que vous préférez?
Bah, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a un temps pour chaque.
Ouais.
Tu vois, c'est vraiment deux plaisirs différents. La scène, c'est vraiment de l'énergie, c'est sentir les gens, c'est voir qu'ils connaissent tes sons, donc il y a quelque chose de plus touchant. Mais il n'y a rien qui vaut aussi la sensation de faire un bête de morceau en studio, tu vois, du coup. L'un va vraiment pas sans l'autre. Pour nous, il y en a qui n'aiment pas forcément la scène, donc ils restent vraiment en studio. Nous, on commence même à envisager, enfin, quand on fait des sons, on les envisage aussi sur scène, parce que Columbine c'est aussi un projet vachement présent sur scène, tu vois, on va faire plein de festivals et tout et tout. Du coup c'est ça en fait, pour nous ça va de pair. Je sais pas s'il fallait vraiment choisir actuellement, je suis bien sur scène.
Ouais. Ouais, le studio c'est, enfin un studio après c'est faire des sons, hein, parce que le studio c'est un peu, tu peux faire des sons un peu n'importe où, hein. Des sons dans une chambre d'hôtel comme tu peux le faire dans un vrai studio. C'est plus, ouais, je pense faut des périodes parce que la scène c'est aussi fatigant, ça casse ton rythme et tu vois, faut aussi prendre le temps d'avoir ce lifestyle de star entre guillemets qu'on est en train de roder en mode comment bien s'organiser et tu sens qu'on commence à apprendre de ça, mais quand t'es en tournée tu vis la nuit, ça te déphase, c'est un autre monde, tu vois. Et c'est aussi la tournée qui donne l'inspiration pour le studio, donc en fait, tu vois, c'est une espèce de bipolarité comme ça.
Alors, dans quel environnement vous pensez être les plus créatifs?
À la maison, je pense.
À la maison, ouais.
Ouais. Bah, nous, on vient vraiment des home studios, et même si on commence des fois à faire des petites sessions en studio pro et tout, ça apporte une autre approche, mais le meilleur de notre taf, en général, on le fait à la maison, genre dans la chambre, dans un cocon, tu vois, presque familial, tu vois, le délire, genre, c'est ça, vraiment en mode. Seul avec soi-même, quoi.
Je pense que t'as besoin d'une période où t'es vraiment genre un son, ça peut être chez toi pendant carrément 24 heures où tu vas te lever, tu vas faire un son, tu vas te coucher, tu vas te remettre dessus et tout ton cerveau va essayer de se concentrer là-dessus parce que ça peut être aussi long que rapide et après comme on fait le mix nous-mêmes, on trouve les effets. Souvent,
tu vois,
on cherche à vraiment s'investir dans tous les compartiments du son pour vraiment trouver la patte, tu vois.
Après on a passé un gros step sur cette réédition, c'est que tout a été créé dans la chambre, mais qu'on a fait la démarche de tout réenregistrer avec NKF.
Ouais.
Je sais pas si tu vois.
Ouais, bien sûr, c'est le producteur de PNL.
Ouais, voilà, qui est réal et qui enregistre PNL et qui lui nous a appris aussi une nouvelle démarche, tu vois, genre qui est vraiment, je pense, c'est un des meilleurs ingé son réalisateurs actuels, tu vois. Et en vrai, là où avant on n'aimait pas le côté retaffer un son déjà fini, tu vois, on aimait bien quand c'est une fois qu'il est fini, il se ressortira comme ça. Ben, grâce à son taf, on a pu faire vraiment step up des morceaux, tu vois. Genre prendre une base et vraiment la produire et la rendre encore ouais. plus. Enfin ça, c'est comme ça, quand même ça, la différence qui se ressent par rapport à Adieu au revoir sur Adieu, par rapport à Adieu bientôt sur Adieu au revoir, c'est la production quoi. Okay. Les voix et tout, il y a quand même quelque chose de très léché et c'est cool, c'est vraiment cool d'atteindre ça.
Alors justement, comment s'est faite la connexion avec, avec NKF ?
On s'était capté à l'époque d'Adieu bientôt, mais il est archi busy, tu vois, il bosse sur beaucoup de choses et tout. Et bon, c'est ça quoi, ça s'est fait en mode. Les créneaux étaient open, nous on voulait sortir notre édition, on est allé le rejoindre
au
Canada exactement, ouais. Et on s'est fait quoi, une petite semaine, puis lui, c'est un... lui il est adorable, tu vois, genre vraiment, on ne savait pas tu vois, au début comment ça allait donner, parce qu'on n'a jamais confié même notre son à d'autres personnes, tu vois.
Ça, c'est la première fois que vous travaillez vraiment avec un producteur extérieur à votre cercle, quoi.
Mais, ouais, voilà, et puis, mais lui il est tellement à la cool et tout, qu'en vrai il te met grave à l'aise, voilà. Et puis...
rarement t'en rigoler en studio avec lui.
Il a une vraie vision, tu vois.
C'est vrai.
Il est vraiment très très marrant et je crois que c'est vraiment ça que j'ai le plus retenu.
On se comprend, quoi.
Ouais, on s'est vite compris.
Il a compris les sons. Il a... Ouais, non, ouais, c'était une belle
alchimie. Qu'est-ce qu'il a pensé de votre univers, justement, de vos...
Mais il écoute les... Déjà, il a un truc, c'est qu'il fait vraiment attention aux paroles,
ouais.
À l'interprétation. Et ça, c'est un truc important. Parce que je connais beaucoup de personnes dans la musique qui ont tendance à un peu délaisser les paroles et tout. Et nous, c'est un truc important. Et c'est un truc sur lequel, ouais, enfin, on est regardant, je pense. Il y a beaucoup de musiciens ou de beatmakers et tout, c'est un peu secondaire pour eux. Et d'accord. Nous quand même on a envie de dire bah non c'est pas secondaire, parce que quand on fait un son avec des paroles pourries, ces gens qui n'écoutent pas les paroles vont dire que c'est pourri, donc en fait c'est une espèce de truc un peu focus, et qu'en fait si les paroles c'est hyper important, même quand t'as l'impression que c'est simple, un peu débile et tout, bah, c'est quand même hyper important que ce soit calculé, tu vois.
Je pense qu'il a kiffé le projet aussi, l'intention, c'est sur certains points ça a pu aussi lui rappeler le travail avec PNL aussi, le côté un peu à part, tu vois, le côté à part dans une autre vibe complètement, mais ouais, non, je crois qu'il a été à l'écoute du projet, que c'était cool en fait de bosser avec des gens intéressés, quoi.
Alors comment ont été aperçus vos débuts dans le rap ? Comment vous avez été accueillis quand vous commencez vos sons ?
On n'est pas accueillis, on est rentré par une porte, il y avait un désert.
On est arrivé un peu de force, ouais. Et on a...
Même salut, moment, on est...
Même il y a personne. On n'est pas vraiment accueillis, en fait, c'est plus qu'on fait des chiffres, donc ça, on a créé nous-mêmes notre place dans le rap. Après, on n'est pas un groupe... cité, tu vois, extérieurement, quoi que ce soit, donc il y a un petit côté invisible mais en même temps très présent, donc du coup c'est un peu comme ça que ça se définit, qu'on a un peu le cul entre deux chaises sur notre présence.
On a toujours la dalle comme si on n'avait pas percé, en fait,
ouais.
Parce qu'il y a ce truc un peu l'impression de, tu sais, qu'on est, que les gens même ne voient pas notre succès, c'est-à-dire que les gens extérieurs au projet, enfin c'est soit tu nous connais, tu sais qu'on est connu et tu te fais de nous des stars, soit tu nous connais pas du tout, tu vois. Il n'y a pas de gens qui nous aiment pas, qui nous connaissent, tu vois, il y en a très peu, tu vois.
Ouais, on n'a pas trop d'entre deux, tu vois. Enfin, il y a des gens qui aiment pas le projet, point barre, t'as, ils vont plein en mode préjugé, ils veulent pas y toucher. Et puis les gens qui nous kiffent, c'est en mode hardcore, genre, ils savent où on habite, voilà, il y en a toutes les dates et tout et tout. Donc ouais, il n'y a pas trop d'entre deux. C'est ce qu'on tend aussi à développer, voir aussi avec des nouveaux types de sons jusqu'où on peut porter...
Parce que c'est vrai que vous êtes quand même conçu une fanbase assez solide. Il n'y a rien qu'à voir sur vos concerts. Il y a même un aspect un peu rockstar. Toi, quand tu sautes
band,
dans la...
Tu vois,
ouais, voilà, c'est ça. Quand tu sautes dans la foule et on voit les gamines qui crient, etc.
Ouais,
tout
ouais,
ça,
bah
machin,
ouais,
les fans.
On est les One Division, franchement.
One Direction,
pardon.
Non, mais on a vu... ouais, on l'a ressenti, il y a un truc...
Vous avez quand même une communauté assez...
un peu, quoi.
Assez forte.
Ouais, ils sont contents. Il y a une belle communion, tu vois. Et on fédère, en fait. Je pense que Women, c'est un projet qui fédère et qui va au-dessus de la musique pour certains, tu vois. Tu vois, ils vivent le truc à fond.
On a un côté grand frère, en fait.
Ouais.
Il y a pas mal de jeunes qui se reconnaissent. Puis tu les vois aussi, des gens qui ont l'air en détresse et qui se reconnaissent dans nos sons. Il y a beaucoup de jeunes, de très jeunes, hein, même des meufs de 13 ans qui viennent te dire que bah, si t'es pas là, c'est rien ne va. Donc,
d'accord.
Tu vois,
après, ça va prendre avec des pincettes, c'est ce qu'on disait aussi.
Ouais.
C'est que, enfin, des fois, ils peuvent être... Vraiment dans des rapports comme ça, tu peux voir des gens qui vont te dire tu m'as sauvé la vie et tout, mais je pense qu'il faut pas prendre tout au premier degré, parce que sinon ça peut aussi te matrixer et
bien
tu
sûr.
Peux te sentir plus pas responsable du positif mais aussi du négatif qui
bien
leur
sûr.
Arrive. Et nous on veut pas avoir ce rôle là, on fait notre musique, tu vois, on veut pas la formater parce qu'on devient des exemples soi-disant. Je pense que les gens des fois ils exagèrent aussi un peu que Columbine leur apporte, mais voilà, quand t'es jeune aussi c'est là aussi les moments où t'es le plus sensible aux influences extérieures, comme
bien
ils disent
sûr,
tu cherches des grands frères, tu vois,
bien
du
sûr.
Coup c'est tombé sur nous quoi.
Et justement, est-ce que ce succès, ça vous a un peu effrayé ? Ou est-ce que contraire, vous en avez, vous en voulez encore? Est-ce que vous avez un petit peu soif de reconnaissance, de gloire? Ou est-ce que, au contraire, ça vous effraie?
C'est un truc qu'il faut maîtriser.
Ouais.
Les deux.
Parce que, mais je pense qu'on maîtrise, ou en tout cas qu'on... En fait, on l'a vécu un peu de manière diluée. C'est pas quelque chose qu'on a pris en pleine face comme d'autres artistes, ou même on a vécu le succès à petite échelle. Et donc, du coup, on se dit qu'à grande échelle, on a... Quand ça passera à la très grande échelle, on aura déjà les habitudes qui font que ça se passera bien.
On se préserve.
Ouais.
On est assez préservé en fait, ça, tu vois, même le fait qu'on vive pas à Paris et tout, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qui fait qu'on arrive quand même à séparer les deux vies, tu vois.
Vie professionnelle, vie personnelle.
Puis je pense que...
Ouais, c'est pas hardcore et puis les gens sont assez bienveillants avec nous, les gens qui nous reconnaissent et tout, donc en fait, c'est pas... Ça tend pas à nous... Ça va pas nous foutre dans la dépression et tout, ça nous en est.
Je pense que ce qui est important, c'est que... notamment pour ceux qui percent jeunes, et je pense que nous on en fait partie, même si on a commencé très tôt, très jeune, à 18 ans, aujourd'hui on en a 23, donc tu vois, il y a quand même du temps qui s'est écoulé.
Je sais pas si on a encore percé, ça aussi que je me rends question, tu vois ce que je veux dire, genre, pour moi percer c'est vraiment, il y a peut-être 10 personnes en France qui ont percé vraiment, tu vois, c'est quand t'as le butu que tout le monde connaît. Pour l'instant Columbine c'est pas encore incontournable, tu vois ce que je veux dire,
genre, c'est connu quand même.
Ouais, mais oui et non, c'est un peu connu au stade où les gens ils savent pas quel titre mettre, tu vois.
Ouais.
Tu sais, c'est un peu frustrant ce côté-là, genre...
Ni quel visage, tu vois, un peu.
Sauf nos fans hardcore. Mais genre, tu prends quelqu'un dans la rue, tu connais Columbine, il va avoir une vague idée de ce que c'est, il sait pas qui c'est, quels sont et tout. Et c'est un peu le step qui nous manque, tu vois.
Ouais.
Ce que je voulais dire, c'est que... en fait, je pense qu'il est important aussi, c'est d'arriver face au succès avec quelque chose, une confiance en soi. Je pense que quand t'arrives au succès avec un... quelque chose de bancal dans mental, tu vois, ou psychologique, tu vas moins bien le vivre que si tu y es préparé physiquement et mentalement, dire ok, ça va être comme ça, ma vie va changer, je vais devoir accepter ça, je vais devoir prendre des nouvelles habitudes, faut que les gens, quand ils voient ma gueule, faut pas qu'ils se moquent de moi, donc faut quelque part, niveau de l'attitude, niveau du physique, je sois prêt aussi à m'exposer. Et je pense que ça, c'est un travail de longue haleine. Et sur les années, sur les derniers albums qu'on a eu, on a fait ce truc progressivement. Et si on se sentait pas prêt, on n'est jamais allé dire ouais, on va faire plein de promos, on va faire plein de trucs, plein de concerts. Quand on se sentait pas prêt, on a dit ouais, les concerts, on attend. Tu vois, la promo, on va attendre et tout. Et au final, aujourd'hui, on commence parce que maintenant, on a l'expérience et on a la confiance de le faire. Mais au début, c'était vraiment genre si on allait là-dedans, ça allait. On avait peur, tu vois, de la honte et on préférait arriver fort. On a toujours préféré prendre notre temps et arriver fort que d'arriver et dire « Ok, on va être les petits jeunes qui vont faire n'importe quoi, tu vois. »
Alors justement, comment vous vous êtes préparé à cette exposition médiatique? Comment vous êtes forgé à ça?
Bon, on n'est pas encore là-dedans de fou non plus, hein, tu vois. En vrai, progressivement, le premier projet, c'est ça, au début, on estimait pas devoir se montrer, enfin, tu sais, s'imposer aux gens, tu vois. Genre, quand t'es pas du tout identifié, c'est bizarre qu'il y ait ta gueule partout, tu vois. Même si ça peut être des stratégies de promo, mais au début, on s'est un peu préservé de ça. Et là, sur ce dernier projet, on s'y sentait prêt aussi, tu vois, à venir parler de notre projet, à le défendre, à bien l'expliquer, tu vois. Et je pense pas qu'on est dans la sur-médiatisation, parce que tu vois, on fait très peu de télé, on fait aucune cover de magazine ou de trucs comme ça. Du coup, c'est progressif, quoi, en vrai. En vrai, dans un projet très progressif, c'est pour ça qu'aussi on gère bien le succès. C'est parce qu'on n'est pas arrivé en mode premier album explosion.
Puis on fait,
il y a eu 3 projets, il y a eu des sons qui ont moins marché, il y a des fois on voulait faire des singles qui ne l'ont pas été. Et voilà, petit à petit, tu vois, on a eu un son en rotation sur Skyrock, peut-être qu'on en aura un prochain, peut-être qu'il sera plus gros, peut-être qu'on aura le tube de l'été, tu vois.
Ah oui, nous aussi on est des consommateurs de musique et d'artistes, mais à tous les niveaux, que ce soit au niveau musical, au niveau stratégie de communication. Et on sait aussi les artistes qu'on apprécie et de voir les stratégies de communication qu'on aime et celles qui nous agacent. Et on essaye on n'a pas envie d'agacer les gens, donc tu vois, quelque part, on préfère rigoler de ce qu'on fait et quand on abuse un peu sur la pub ou la promo que de passer pour les gars... tu vois, qu'on changeait, qu'on pris la grossesse, un truc sur lequel on a envie, autant que ça plaise à du nouveau public, que notre ancien public, il commence pas à nous décrier, et ça, on essaie de faire attention à ça. C'est toujours ce step, tu sais, où tu passes un cap, et ta vie, elle a changé, donc tu peux pas faire comme avant, et il y a ceux qui te le reprocheront, et nous, on essaie de tendre à faire que ça plaise un peu aux deux, tu vois. Et on est regardant là-dessus, parce que je pense qu'il y a pas mal de rappeurs ou de groupes qui se sont perdus aussi dans cet entre-deux ou à vouloir trop s'exposer ou passer.
Bien sûr.
Donc nous on est vachement regardant là-dessus et on a envie que les gens ils kiffent ce qu'on ce qu'on fait sans nous détester, tu vois.
Bien sûr.
On assumera nos positions, c'est ça que je veux dire, tu vois. Il n'y a pas de secret, tu vois.
Alors, concernant la réédition de Adieu Bientôt, enfin, du nouveau projet qui s'appelle maintenant Adieu Au Revoir, ouais. Vous proposez donc 10 titres inédits et vous gardez la pochette de Adieu Bientôt que vous, sur laquelle vous rajoutez un décor un petit peu apocalyptique avec des flammes, etc. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se différencie un petit peu du premier projet ?
Bah déjà, ouais, on a gardé la base du premier projet parce que vraiment c'est la continuité. Et puis après, aussi le jeu des flammes, c'est aussi quelque chose qu'on a toujours fait pour. Tu vois, on a teasé notre. Avant la sortie d'Adieu Bientôt, en changeant toutes les photos de profil par des flammes. Et avant Enfant Terrible, c'était du sable. On a bien joué sur des éléments comme ça. Et du coup, c'était assez proche à ce projet. Après, il y a quelque chose. Voilà, en fait, c'est vraiment aussi la fin d'un chapitre de Columbine, tu vois. C'est. Mais. Faut écouter le projet en fait. Il y a plein de choses qu'on n'a pas à dire frontalement tout de suite, ouais, tu vois, mais qui se laisseront lire au cours du projet.
Ouais.
Et évidemment, ouais, c'est aussi le côté, c'est la fin de quelque chose en fait. Mais tu sais, c'est le côté la colombe renaît de ses cendres aussi.
Okay. Et donc c'est vrai qu'il y a quand même des titres assez mélodieux. C'est une direction que vous aviez pris dès Enfant Terrible et que vous avez continué, que vous avez conservé.
Ah ouais, ouais. Bon, nous, le chant, ça commence à dépasser presque le rap brut, tu vois. Pour nous, même si on garde l'étiquette rap et que c'est important pour nous de se maintenir là-dedans, tu vois, on fait pas de la chanson, mais on puise tellement d'inspiration dans des genres différents qu'en vrai, on veut pas se mettre de pression là-dessus, et que si on veut chanter et faire des morceaux full chanson, on le fera, tu vois, et c'est vraiment ça, quoi. Et puis vraiment, trouver une mélodie, pour moi, c'est ce qui fait le plus passer d'émotions aussi dans la musique, tu vois. Surtout actuellement.
Et c'est marrant parce qu'il y a pas mal de gens qui reparlent du chant. Bon, certes, il y a peut-être des sons vraiment chantés sur la réédition, mais c'est des sons rappés. Et les gens ont pas l'impression que c'est du rap, tu vois. Et comme si c'était une nouvelle façon de poser. Et ça que j'aime bien, c'est que c'est l'ambiguïté, tu vois. C'est ça qu'on kiffe notamment chez le rap américain. C'est qu'en fait, ils font des flows rappés qui paraissent même assez simples, mais qui sont tellement mélodieux. Et en fait, ils sont tellement, on va dire, lié au niveau du souffle et tout, que t'as l'impression que c'est chanté, et c'est ça qu'on essaye de faire. Et du coup, il y a même des sons qui techniquement paraissent hyper simples, mais comme nous on essaye de travailler sur la justesse, la voix et tout, en fait c'est des sons qui sont hyper compliqués à faire et qu'on n'arrivait pas à faire avant, alors que techniquement ça paraît moins compliqué que des trucs qu'on faisait avant où ça rappait super vite, tu vois. Et donc c'est pour ça que c'est un faux semblant, tu vois, technique et qui paraît commun ou quoi, mais en fait je pense que c'est assez nouveau et c'est assez kiffant à faire, en fait.
C'est un petit peu ce qui a provoqué PNL, un petit peu avec le cloud rap.
Mais c'est vrai qu'il y a eu un avant après PNL dans notre production, tu vois, genre quand on a découvert PNL, c'était vraiment genre ok, maintenant c'est... On l'a découvert vraiment au tout début, c'était, pour nous ça sortait nulle part, et
ouais,
même
la
niveau...
La musique, la stratégie, c'était trop parfait en fait, c'était tellement neuf, tu vois, que... C'était inattendu et t'imaginais pas que ça puisse arriver comme ça, et vraiment il y a...
En France, surtout.
Ouais, en France, et même qu'au final ce soit vraiment un même projet qui est même plus chaud que des projets qu'un riz, tu vois.
Bien sûr.
Et ça, même tout ce qu'il y a autour et tout, c'est un genre d'idéal sur certains points, il y a quelque chose de vachement maîtrisé, et leurs trois albums sont vraiment bons, donc c'est aussi ça content, quoi, genre faire que des bons morceaux et... Voilà.
Alors c'est une influence qu'on retrouve quand même beaucoup sur votre album, on la ressent assez. Il y a aussi les thèmes qu'aborde PNL, c'est aussi la famille, et c'est un thème aussi qui est récurrent dans vos sons. Vous avez notamment sur Testament, un son que les fans pourront découvrir, où vous dites « sauve la famille sans poser de questions ». C'est un thème qui vous tient à cœur.
Bah, la famille c'est sacré, on a que ça en fait, c'est ça c'est qu'on a remarqué, c'est que comme il a dit, comme un son de Drake, un très bon son de Drake qui dit « Keep the family close », tu vois, c'est ça, on a compris qu'en fait, en avançant dans la vie, on pouvait avoir que la famille auprès de nous, et même notre bande de potes, c'était la famille, et qu'en fait, on avait que ça, et qu'on avait du mal à aller trouver des nouvelles personnes ou inclure de nouvelles personnes. Et au bout d'un moment, t'as un peu ta tête qui dit « Arrête d'aller chercher ailleurs, t'as tout à proximité ». Et sur ce son là, mais même sur plein de sons qu'on fait, il y a un peu ce retour à ça en mode ok, maintenant en fait faut que je me reconcentre vraiment sur la base, c'est à dire faut que je me concentre sur ma musique, faut que je réussisse, faut que j'oublie le côté social, maintenant je suis capable de vivre une vie stable. C'est un peu ça aussi le fort sur ces sons là, c'est que maintenant on est capable de faire des sons qui nous plaisent et qui aillent chercher des gens sans vouloir être dans la séduction totale, tu vois. Maintenant on est vraiment concentré sur notre son. et parce qu'on est on a compris que notre entourage nous suffisait, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Et ça te permet de donner la force de te dire au quotidien, bah maintenant je fais du son, je peux le faire, je dois rien à personne, quoi.
Et c'est vrai que comme PNL, vous faites rarement de featuring avec des personnes extérieures à votre entourage. Ouais, même sur votre nouveau projet, il n'y en a pas.
Non, moi,
comment ça se fait?
On est en contact avec personne, tu vois.
Ouais. C'est un choix ou c'est
approché. On s'est pas non plus fait approcher. On croise des fois un peu plus récemment les têtes du rap, tu vois, mais on.
Non, pas au point qu'il y ait une familiarité au point de faire du son ensemble. Je pense que si ça doit arriver, ce serait peut-être plus sur des projets solo, tu vois, que sur...
Et quelques featuring qu'on a essayé, ils sont vraiment de côté. Et c'est avec des rappeurs pas très connus, au final, qui traînent avec des potos, qui sont pas dans Columbine ou autre, mais c'est des gens qu'on fréquente.
Ouais, c'est vrai que notre stratégie, elle passe pas par un featuring, tu vois, d'une tête. Même si c'est ça, en fait, qui pourrait aussi... nous ouvrir des portes et nous placer un peu, tu vois. Mais c'est ça, Columbine, on est resté vierge
on peut faire des figures de proue et porter d'autres artistes qu'on kiffe qui peuvent potentiellement nous enterrer plus tard que d'aller chercher ceux qui sont déjà connus qui n'en sont pas forcément. Je pense que s'il y a des artistes, je préférerais fitter des artistes moins connus que moi mais qui me parlent plus artistiquement, quitte à, tu vois, que ça construire un nouveau réseau qui n'existe pas encore, tu vois. C'est peut-être plus intéressant de se construire comme ça et de dire bah non, c'est maintenant Columbine, c'est un autre genre, quoi, tu vois ce que je veux dire.
Mais est-ce que vous avez un artiste que vous admirez ou qui vous inspire, avec qui vous aimeriez pouvoir collaborer?
Non, pas à ce point-là. Je pense que ça se réfléchit, tu vois. Là, on peut pas citer. En fait, c'est genre la cinquième fois qu'on nous pose la question
dans la journée.
Et l'autre fois, tout à l'heure, on a rebondi en disant que ce qui pourrait être intéressant, c'est de rencontrer avec un peu, bosser avec des producteurs un peu de rêve, tu vois.
Ouais.
Je saurais pas qui te citer, même là tout de suite, tu vois.
Des
mais créer vraiment une équipe de production sur un album avec vraiment des pointures, tu vois. Mmh. Plus que de citer des rappeurs tout de suite, parce que tout le monde évolue aussi. Là, même si aujourd'hui, il n'y a personne qui peut correspondre à notre délire tout de suite, peut-être qu'on va évoluer, que d'autres vont évoluer dans un autre délire et qu'on sera évident dans un an, tu vois. On a un œil sur tout ce qu'il fait, on kiffe plein de trucs. Après, là, il n'y a pas de nom à citer tout de suite, tu vois.
Mais vous avez quand même des artistes, peut-être hors musique, qui vous inspirent dans vos créations, par le parcours ou par
De toute façon, et qui nous inspirent.
Oui.
Ouais, bah y en a plein. Bah souvent on cite l'exemple de Tyler the Creator parce qu'il y avait Haute Futur et le côté collectif et surtout de sa gestion de carrière qui est très carrée et ça nous inspire. Après il y a plein de... De toute façon t'es obligé de tu t'inspires de plein de choses. Après il n'y a pas 36 000 noms à citer, tu vois. On découvre aussi, tu vois, on est arrivé un peu avec notre naïveté, on s'est forgé petit à petit. Donc en fait on prend pas que exemple, en fait on apprend de nos erreurs et nous-mêmes on commence à savoir ce qu'on veut et dans quel sens on le veut, quoi.
Selon vous, qu'est-ce qui fait votre force aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous différencie des autres artistes qu'on a en France?
C'est le bagage, entre guillemets, tu vois, c'est genre le bagage technique, culturel, les références, c'est qu'aujourd'hui on a de la maîtrise sur ce qu'on fait et qu'on a de la diversité. Et je pense que, tu vois, c'est faire un son, tu vois, quand tu fais un son un peu jazz ou rock, c'est un bling-bling que tu rajoutes à ton arc, tu vois, c'est genre, j'ai cette corde-là à mon arc et c'est ça, je pense qu'on a, c'est qu'on a plein de cordes à notre arc et ça fait que, tu vois, on a une belle harpe là où certains ont juste une petite ficelle, quoi, et ça je pense que c'est notre force.
On a un peu créé notre genre aussi, tu vois, il y a ce côté là aussi, si on fait pas de feat, c'est qu'ici qu'on se reconnaît frontalement dans personne, tu vois, mais du coup c'est parce qu'on a créé notre individualité et c'est ça, tu vois.
Et comment vous définiriez votre style justement?
Ben je sais pas, ça c'est vraiment puisé dans plein d'inspiration sans complexe. Donc en fait, du coup, Columbine, ça peut aussi bien toucher au jazz qu'à de la chanson française, qu'à plein de choses, et sans que ce soit, sans qu'on ait travesti notre musique, en fait. Et du coup, c'est cool parce qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut. On peut faire un son complètement chanté, puis un son complètement rappé, mais ça restera du Columbine. Et je pense que ce qui nous différencie, c'est notre écriture, parce qu'on a un style d'écriture qui nous est assez propre, tu vois.
Alors, vous avez aussi un logo que je trouve assez fort. C'est la colombe mêlée à la Kalachnikov. Quelle philosophie, quel message se cache derrière le logo et puis finalement derrière Columbine?
Bah, la dualité, c'est le côté... c'est jamais tout blanc ni tout noir, tu vois. C'est plus ça. Puis on cherchait quelque chose d'assez corrosif et d'assez fort et simple à comprendre. En fait, c'est pour ça qu'il est efficace. C'est parce qu'il est super simple à comprendre et que direct tu captes où on veut en venir, tu vois. Et puis voilà, quoi. Il est esthétique et... Et on aime jouer sur les contradictions.
Le blanc et le noir, enfin, c'est vraiment c'est une image assez à la fois simple et... En fait, c'était une image qui paraissait même trop simple au début. Au début, je pensais même que c'était presque un peu cucu. Et au final, ça a marqué tout le monde. Là, ça paraissait être une évidence. Et du coup, on l'a gardé vraiment. Et aujourd'hui, c'est indéniable, quoi.
On se demandait si on n'allait pas le changer, en fait.
Ouais.
Il avait été fait assez vite au début.
C'était cheap, tu vois. C'était avec des éléments pris d'internet et tout.
En fait, non, il est devenu évident, tu vois. Et il décrit super bien le groupe aussi, tu vois.
Si vous deviez faire une rétrospective de vous à vos débuts et vous aujourd'hui, quel bilan vous feriez ?
Je pense qu'on avance dans le bon sens. Tu vois, qu'on s'est amélioré. On fait plein de choses qu'on n'aurait pas forcément imaginé faire à nos débuts.
Ouais.
Et c'est ça, je pense qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut continuer là-dessus. Tu vois.
Keep going.
Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ?
Qu'il y ait une suite déjà.
Elle sera prometteuse.
Ouais, toujours plus d'épanouissement artistique et personnel.
Des bons sons. Ouais. Des bonnes prods.
Être heureux avec
des bonnes prods dans la boîte mail tous les jours. Ça serait bien.
Non, mais on passe une annonce hein, à tous les beatmakers.
C'est l'objectif. Le rappeur, c'est de jamais être à court de bonnes prods.
Bah écoutez, merci beaucoup Columbine d'avoir accepté notre interview. On est très ravis. On a hâte que le projet sorte. On vous souhaite très bon courage.
Non, c'est pas grave, frelon, c'est pas grave, on vous croyait inséparable. Tout le monde est passé par là, dans les parages. Bonheur ne montrera jamais, jamais son vrai visage. Fausse vérité, vrai mensonge, mirage, il te traite comme un animal. Si t'es pas né du bon côté du rivage, fuck, j'veux plus m'asseoir à leur table tant que j'ai ton corps dans mon paysage. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave.
Non, c'est pas grave, j'suis passé par là. C'est pas grave, si t'as le cœur irréparable. C'est pas grave, te quiero. Non, j'rigole, je ne t'aime plus. Je mène une vie superflue. J'larme mes crochets hypercutes sur une instru déjà vue. Comme chercheur d'or, cherche à tromper la mort. Qui de nous deux est plus fort? On ne s'est jamais mis d'accord.
Non, c'est pas grave, frelon, c'est pas grave. On vous croyait inséparable. Tout le monde est passé par là, dans les parages. Bonheur ne montrera jamais, jamais son vrai visage. Fausse vérité, vrai mensonge, mirage. Il te traite comme un animal. Si t'es pas né du bon côté du rivage, fuck, j'veux plus m'asseoir à leur table tant que j'ai ton corps dans mon paysage. C'est pas grave, c'est pas grave.
Non,
c'est pas grave, c'est pas grave.
Non, c'est pas grave, j'suis passé par là. C'est pas grave. T'as le cœur irréparable. C'est pas grave.
Thank you.